Je vous souhaite une bonne année. Une bonne année à tous. Et je sais que au moins une personne d'entre vous attend avidement que je lui souhaite une bonne année et une bonne santé, parce que la santé, c'est ce qu'il y a de supérieur à tout. Eh bien non, je ne vous souhaiterai pas une bonne santé. Je ne vous le souhaite pas mauvaise non plus. Je souhaite simplement que vous fassiez la volonté de Dieu et que ce que Dieu fasse pour vous, ce qui est le meilleur pour votre vie éternelle et présente. Si le passage par la maladie et la douane pour le royaume des cieux, ça vaut la peine d'être malade. Si c'est pour éprouver notre patience, éprouver le don de nous-mêmes à Dieu, ça vaut la peine d'être malade. Je ne dis pas pour autant qu'il faille souhaiter être malade et se rendre malade exprès, évidemment. Et à ce sujet-là, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. Il y a une peur ambiante qui règne partout actuellement. Mais n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui est marqué dans l'Évangile ? Il est marqué dans l'Évangile, ne vous tracassez pas pour ce dont vous avez besoin. Le Seigneur, lui, sait ce dont vous avez besoin. Et la première chose, si on ne veut pas, je veux dire, si on ne veut pas être malade, logiquement, on ne veut pas être malade. J'étais en train de vous dire que si c'est la volonté de Dieu qu'on le soit, acceptons-le avec joie, bien sûr. Mais en même temps, personne ne souhaite être malade. Mais sans le souhaiter, si la maladie arrive, quelle qu'elle soit, elle est l'expression de la volonté de Dieu. Et on sait que Dieu est bon. Donc il veut notre bien à tous. Et le Seigneur nous dit par ailleurs que aucun cheveu de notre tête ne tombera sans sa permission. Et ça veut dire qu'il prend soin de nous en permanence. Et souvent, vous voyez, on ne croit pas à ça. Souvent, on croit que Dieu a créé le monde, et puis qu'après, le monde court tout seul, court sa propre aventure. Alors que la foi que le Seigneur est venu nous initier, c'est justement qu'il s'occupe de nous à chaque instant. Et par rapport à la maladie, à toute forme de maladie, personne ne peut être malade si ce n'est avec la permission de Dieu. Et on peut faire tout ce qu'on veut aussi pour échapper à la maladie. Si le Seigneur a décidé que c'est le moment de nous faire revenir vers lui dans le royaume des cieux, on n'échappera pas à ça. Donc, n'ayons pas peur. Au contraire, de toute notre foi, attachons-nous au Christ. La situation sanitaire dans laquelle nous sommes et dont tout le monde parle est une belle occasion d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et puis vous êtes adultes. Bien sûr, vous n'avez pas envie d'être malade, moi non plus. Mais il se peut que vous soyez attaqué par la maladie, ou moi aussi. Mais à ce moment-là, vous avez des médicaments spéciaux. Je sais bien qu'il est un petit peu vieillot celui-là, mais il n'est pas périmé, je vous assure. Qui s'appelle le sacrement des malades. C'est un sacrement, c'est un don de l'Esprit-Saint pour communiquer la vie et la santé de l'âme et du corps, suivant la volonté de Dieu, bien sûr. Mais si sa volonté de Dieu est qu'on vive, allons demander ce sacrement-là. C'est un sacrement qui est un peu tombé en désuétude. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas périmé pour autant. On ne l'utilise pas, mais on ne l'utilise pas assez, nulle part. Les prêtres ne le donnent plus, l'Église ne le donne plus, sauf une fois ou deux fois par an, quand pour des cérémonies communes, j'allais dire collectives, pour le mercredi saint, le grand mercredi, où tous ceux qui se sentent malades d'âme ou de corps, c'est-à-dire à peu près tous, vraisemblablement, peuvent aller recevoir ce sacrement-là. Et puis, à certains endroits, une autre fois dans l'année, je dois vous dire que nous, on ne le fait pas, je ne sais pas avec quelle date c'est, je ne me rappelle plus. Mais peu importe. Mais si vous êtes malade, demandez à vos prêtres, et y compris ici, demandez de recevoir le sacrement le sacrement des malades. Il est au moins aussi efficace que toute forme de quoi tout le monde parle tout de suite, des piqûres, là, de toutes sortes de vaccins. L'avantage avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication. Et est-ce providentiel, je ne sais pas. J'avais préparé consciencieusement quelques mots à vous dire sur un autre sujet pour le dimanche qui précède la théophanie. Et j'ai lu très attentivement l'épître. Et en entendant l'épître tout à l'heure, je me suis aperçu que ce n'était pas celui-là. Vous avez lu à juste titre l'épître, la première épître, un morceau de la première épître à Timothée. Et moi, j'ai commenté les mêmes versets pour la deuxième épître de Timothée. Donc, j'ai tout faux. Sauf que, ce que j'avais, la lecture que j'avais, ça s'accorde parfaitement, peut-être pas directement à la fête d'aujourd'hui précédant la théophanie, mais à notre situation globale. Et pour ça, je vais vous en lire juste quelques versets. Dans la deuxième épître à Timothée, Saint Paul dit: l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des enseignements de démons entraînés par l'hypocrisie d'imposteurs qui ont cautérisé leur propre conscience, prohibant les noces et ordonnant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient reçus avec action de grâce par les croyants et par ceux qui ont une vraie connaissance de la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, et il ne faut rien rejeter de ce qui est pris avec action de grâce. Tout est sanctifié en effet par la parole de Dieu et par la prière. Quelques mots à ce sujet-là. Quand saint Paul dit « l'Esprit dit expressément », de quel esprit s'agit-il ? De l'Esprit Saint, bien sûr. Mais comment sait-il ça ? Il n'a pas donné d'explication là-dessus. Mais il peut y avoir deux indications là. D'abord, nous savons qu'à de multiples reprises, saint Paul a reçu directement des révélations de l'Esprit Saint. Il en évoque deux ou trois dans ses épîtres, mais il y en a eu beaucoup plus, certainement beaucoup plus que cela. Et au cours de ces révélations, l'Esprit Saint a pu lui dire ce que nous avons entendu tout de suite et d'autres choses encore. Donc, son témoignage est digne de foi parce qu'il y a une révélation directe. Il y a un autre aspect, l'Esprit Saint parle aussi à saint Paul, mais comme à nous, à travers les Saintes Écritures. Si on lit avec intelligence les Saintes Écritures, L'Esprit Saint parle en nous et nous révèle qui est Dieu, quelle relation nous avons avec lui, ce qu'est la vie éternelle, etc. Et là, ce n'est pas simplement Saint Paul qui a cette chance-là, c'est nous tous, même si nous n'avons pas de révélation mystique personnelle, qui sommes appelés à recevoir l'Esprit Saint à travers la compréhension des Saintes Écritures. Donc, Saint Paul a compris que l'Esprit Saint dit que dans les derniers temps, certains se détourneront de la foi. Nous sommes dans les derniers temps. Je ne suis pas Madame Irma, je vais pas faire, ou Madame Soleil, je ne vais pas vous faire une prophétie pour vous dire quand le monde va cesser. Je sais que dans quelques milliards d'années, la Terre sera englobée par le Soleil. Si c'est ça la fin, vous avez encore du temps devant vous. Mais il ne s'agit pas de cette fin-là. Les derniers temps ont inauguré, ont été commencés par la résurrection du Christ. Depuis ce jour-là, donc depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps. Et ces temps durent encore un peu. J'allais dire s'éternisent, justement, c'est pas ça. La fin des temps est retenue par Dieu pour laisser au plus grand nombre d'hommes la possibilité de le connaître et de s'unir à lui, d'être sauvé, autrement dit. Mais c'est tout de même, depuis la résurrection, c'est tout de même la fin des temps. Et vous pouvez remarquer, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, que en à peu près 4 ou 5 siècles, le monde entier depuis la pointe du rat, et même l'Angleterre, et même l'Écosse d'ailleurs, jusqu'à l'Inde, partout au moins, on avait entendu parler et on vénérait le Christ comme Dieu, quelquefois sous sa forme arienne, mais tout de même, le message évangélique était passé. Et depuis cette époque-là, depuis le 4e ou 5e siècle, on constate une régression de l'implantation des disciples du Christ dans le monde, même si numériquement ils ont encore augmenté parce qu'ils ont fait des enfants, on sait bien comment on s'est multiplié sur Terre, donc il y en a davantage en proportion qui est gros au Christ aussi. Cependant, il y a une régression. Et à la fin des temps, on voit maintenant que 2000 ans après, l'Église, comme ça a toujours été le cas, a été maltraitée, on a essayé de l'étouffer, on n'y est pas réussi, il y a une implosion maintenant en plus, il y a une apostasie par certains côtés, et par certains dans l'Église même, je parle dans le christianisme, et ça ne doit pas nous faire peur. Le Seigneur nous dit, d'après Saint Paul, que certains se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs. Il ne nous revient pas de juger ceux qui s'attachent à ces esprits trompeurs, mais il faut connaître ses opposants à l'esprit de l'Évangile, à l'esprit du royaume des cieux, de manière à réagir et à garder la foi vivante, la foi dont je vous parlais tout à l'heure, que Dieu intervient dans nos vies et qu'on peut le connaître. Saint Paul fait allusion à des enseignements de démons. Les enseignements de démons, c'est les conseils qui sont donnés, l'éducation qui est donnée et qui, dans la mesure où elle cherche à nous détourner de Dieu, à nous empêcher de croire en Dieu, à nous empêcher de le suivre. C'est ça les enseignements des démons. Il continue, entraîné par l'hypocrisie d'imposteurs. Des imposteurs, c'est-à-dire des gens qui propagent le mensonge, qui font croire que la vérité, que le mensonge est la vérité. Et ceux-là sont condamnés par eux-mêmes, se condamnent eux-mêmes, parce que, comme dit saint Paul, je retiens le terme, ils ont cautérisé leur propre conscience. Vous savez ce que c'est que cautériser ? Quand quelqu'un a une plaie, quelqu'un ou un animal, un être vivant a une plaie, on applique dessus un fer rouge, un fer rougi du feu, autrement dit, pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter le sang. Je ne suis pas chirurgien, mais il me semble avoir compris et avoir quelquefois bénéficié de cautérisation. Quand on nous ouvre le ventre pour opérer, il y a un tas de vaisseaux qu'il faut couper. Ces vaisseaux-là laisseraient passer le sang, et il faut les cautériser, c'est-à-dire on brûle le bout du vaisseau de manière à ce que le sang s'arrête. C'est ça la cautérisation. Et il me semble, mais je parle à des gens qui connaissent mieux le monde équin que moi, donc j'y vais prudemment, mais il me semble aussi que lorsque l'on veut marquer des bêtes, que ce soit des animaux, que ce soit des bovins, des ovins ou des équins, ou je ne sais à quel, pour leur mettre une marque, on rougit un fer avec une signature dans du feu, et on applique ça sur la peau de l'animal. Ça ne doit pas lui faire très très beaucoup de bien, mais comme on ne lui donne pas son avis, et il me semble que ça s'appelle la cautérisation. Non ?
Si, si.
Je ne me trompe pas. J'étais pas sûr. Cette double explication s'applique à ces imposteurs hypocrites qui cautérisent leur propre conscience. C'est-à-dire qu'ils passent un feu, mais qui n'est loin d'être le feu divin, qui est un feu diabolique, si vous voulez, sur leur cœur, de manière et le résultat, c'est que leur cœur s'atrophie, le cœur d'une part est marqué par le sceau, par de l'esprit malin, des démons, et en plus il se rétracte, il se ferme comme un vaisseau qu'on a cautérisé. Pour le sujet dont parle saint Paul aujourd'hui, il évoque ces doctrines qui couraient et qui courent encore dans le monde, où il dit que c'est pas la peine de se marier, on peut se marier avec n'importe qui, n'importe comment. Là, pour le sujet dont il s'agit, ceux auxquels il s'adresse, c'est des gens qui croient être plus purs que les autres, comme les cathares, par exemple, qui croient être plus purs que les autres, et qui voient dans l'union charnelle du mariage le signe du mal, et en disant, il ne faudrait pas se marier pour ne pas participer au mal. Et c'est pour cela qu'il évoque aussi, à la suite, les questions de nourriture. Les mêmes puristes estiment que les aliments matériels sont opposés aux aliments spirituels, donc il faut se priver des aliments matériels de manière à survivre dans la vie éternelle. C'est le propre des cathares. Ne mélangez pas ça avec l'ascèse chrétienne. L'ascèse, saint Paul dit que tout est bon, tout est sanctifié, quand c'est offert sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire que autre chose est de se priver du maximum de nourriture sous prétexte que la nourriture n'est pas bonne et que parce que moi je suis pur, je ne vais pas manger. Ça, c'est une chose. Autre chose, l'ascèse chrétienne qui consiste à effectivement pouvoir manger de tout, mais pas n'importe quoi, etc. Mais de trier de manière à avoir à être toujours en réserve pour manger à sa faim, mais pas manger par gloutonnerie, pour le plaisir du manger. Il y a un aspect festif au repas aussi qui est normal. Il ne s'agit pas d'être comme les purs, les cathares, ou les puristes dont parle Saint Paul. Mais il faut retrancher quelque chose. L'homme n'est pas fait pour manger sa nourriture, c'est un but de survivre, de vivre. Mais on ne vit pas pour manger. Le Christ l'explique à d'autres reprises, comme on le voit dans l'Évangile. Et cette épître peut s'appliquer aussi à la situation sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ne cautérisons pas notre cœur, ne nous privons pas de l'essentiel, ne nous privons pas de la communion sacramentelle, ne nous privons pas de notre relation avec Dieu sous prétexte de préserver notre santé. Plus important que notre santé, il y a notre relation avec Dieu. Et si nous cultivons notre relation avec Dieu, rien ne peut nous arriver de contraire à la volonté à sa volonté à lui, qui est notre salut. Ce qui ne veut pas dire de faire toutes les bêtises possibles et imaginables, de s'exposer intentionnellement aux maladies.